cours de théologie naturelle sur la création de décembre 1983, père Marie-Dominique Philippe Rimond. Petite question qui n'est pas directement peut-être dans le cours, mais c'est ce qui intéresse peut-être tout le monde. Lorsque Dieu se révèle lui-même, dans quelle mesure? Alors je marche sur les plates-bandes, hein, mais ça n'a pas d'importance. Ici, les plates-bandes sont uniques. Alors, lorsque Dieu se révèle lui-même, dans quelle mesure peut-on dire que cette révélation est immédiate ou n'est pas immédiate pour le croyant qui le reçoit dans la foi? Et pour le non-croyant, y a-t-il une révélation de Dieu au philosophe qui découvre que les réalités qu'il expérimente dépendent de lui? Par rapport à la création et à la providence, qu'est-ce que l'immanence des stoïciens? Autre chose. Donc ça, c'est la révélation. La révélation est immédiate ou n'est pas immédiate? C'est la question de savoir de l'illumination, comme dit saint Thomas à propos de la foi. C'est une certaine illumination. Vous savez que saint Thomas emploie ces termes et emploie en même temps l'obscurité. Il y a les deux. C'est une illumination obscure. Alors, c'est une illumination, une révélation immédiate ou n'est pas immédiate, la différence avec la prophétie. C'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre. Bon, le croyant reçoit la lumière toujours à travers la parole de Dieu. Donc, à ce point de vue-là, il y a toujours un intermédiaire. Dieu se révèle à travers sa parole. À la différence de la révélation que nous aurons de Dieu au moment de la vision béatifique. La vision béatifique sera une révélation immédiate. Je crois qu'il faut toujours considérer la foi et la vision béatifique en parallèle, puisque la nécessité de la foi provient de la vision béatifique. C'est très important. C'est donc par la vision béatifique que je comprends la foi. Si je vous le dis, puisque je ne peux pas comprendre l'imparfait sans le parfait. Et donc, c'est par le parfait que je comprends l'imparfait. Or, la foi est d'ordre essentiellement imparfaite, et elle est tout entière ordonnée à la vision béatifique. C'est donc la vision béatifique qui m'aide à comprendre la foi. C'est pour ça que le traité de la vision béatifique est si important. Alors vous savez que c'est dans le traité de la vision béatifique où saint Thomas a apporté des précisions qui avant n'existaient pas. Au fond, saint Thomas est très original dans le traité de la vision béatifique par rapport à tout ce qui avait été dit avant. Il a précisé des choses qui n'étaient pas précisées avant. Alors je crois que c'est très important. Alors ne faisons pas de la foi la vision béatifique, hein. Ce ne serait plus la foi. C'est justement la non-vision. C'est pour ça que saint Thomas précise que la foi est la non-vision. Mais c'est important, je crois, de regarder le parfait pour comprendre l'imparfait. Et c'est ce qui est si difficile dans le traité de la foi, c'est qu'on est en face d'un certain devenir d'éternité. La foi nous fait toucher la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Et cependant, celui qui croit n'est pas modifié dans son conditionnement de pèlerin. Il est donc accroché à l'éternité dans son conditionnement de pèlerin. Et c'est ça qui fait perpétuellement la difficulté dans le traité de la foi. Et c'est vrai, à ce point de vue-là, c'est très difficile parce qu'il faut respecter le conditionnement humain. Vous n'avez qu'à regarder les deux premiers articles de saint Thomas, la simplicité, la complexité. Et vous avez tout de suite le regard de simplicité, la ratio formalis de la foi, qui monte à simplicité. La foi est une. La vision béatifique est une. Quelle est la raison formelle de la vision béatifique? Quelle est la raison formelle de la foi? La raison formelle de la vision béatifique, c'est le Verbe de Dieu qui se donne à moi, qui se communique à moi. C'est donc Dieu qui se révèle comme vérité. La différence, c'est que d'un côté, c'est dans la lumière, et de l'autre côté, c'est dans l'obscurité. Mais la raison formelle est la même. Objectivement, c'est Dieu qui se révèle. Mais d'un côté, Dieu se révèle dans l'obscurité, et ce sera par la médiation de la parole. Et de l'autre côté, c'est Dieu qui se révèle dans l'évidence, sans médiation. Alors vous avez le parfait et l'imparfait, les deux qui se tiennent, mais qui sont dans la même ligne. C'est la foi qui me permet de m'orienter vers la vision béatifique. Si je n'avais pas la foi, je ne pourrais pas m'orienter vers la vision béatifique. L'appétit naturel de l'intelligence, puisqu'il y en a un qui travaille l'appétit naturel de l'intelligence, l'appétit naturel de l'intelligence ne me suffit pas pour parler de la vision béatifique. Mais si la foi me parle de la vision béatifique, l'appétit naturel de la foi et l'appétit naturel de l'intelligence est parfaitement satisfait. Autrement dit, toujours, la révélation me permet de comprendre en plénitude ce qu'est la nature, à l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu ne permet pas de comprendre ce que c'est que la vision béatifique. Alors, voyez, c'est ça qui est au fond très difficile. Hein. C'est très vrai que c'est très difficile. Je ne veux pas entrer plus, hein, parce que ça, je laisse le traité de la foi dans tout ça. Ça. Mais c'est intéressant de temps en temps. Je crois que ça peut être très, très bon de temps en temps de chevaucher entre la création et le point de vue de la révélation. Il y a un parallèle. C'est le parallèle qu'on voit distinguer et que les ontologistes n'ont pas distingué. Nous verrons. Par la création, Dieu est plus présent à mon être que je ne suis présent à moi-même. Par la révélation, Dieu est la lumière de ma lumière. Et il est plus lumière que ma propre lumière. Alors, d'un côté, c'est la lumière et de l'autre côté, c'est l'être. Mais il y a un parallélisme encore que je peux établir. Par la création, nous allons le voir, Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Alors si je confonds l'ordre de l'être et l'ordre de l'intelligibilité, ce que fait l'ontologisme, à ce moment-là, je dis que Dieu est le premier objet que je dois atteindre. C'est le premier objet que j'atteins dans la foi, mais pas dans mon appétit naturel de l'intelligence. Tandis que pour les ontologistes, la première chose que je vois, c'est Dieu, Malebranche. C'est un curé, il ne faut pas l'oublier. Alors Malebranche. Malebranche dit que la première chose que je connais, c'est Dieu. Et que c'est par Dieu que je connais la créature.
Mais la conversion de quelqu'un comme Alphonse de Ratisbonne ou Cotolède,
oui.
L'anémie du commandement.
Ah, faisons attention, hein. La conversion de Ratisbonne, c'est de la révélation privée. Ne faites pas le traité de la foi à partir des révélations privées. Vous voyez, attention. Il faut essayer d'expliquer que la conversion, c'est une lumière qui est donnée, et alors il y a quelque chose de charismatique chez eux. C'est comme pour saint Paul. Il y a quelque chose de charismatique. C'est pour ça qu'on dit les grands croyants, tu vois. Mais peut-être que vous avez une foi plus grande qu'eux. Hein? C'est pas charismatique chez vous, puisque ça a été reçu au baptême. Ça a été très enfoui. Mais c'est possible, oui. Alors quand c'est charismatique, il y a toujours un peu un spectacle. Et ça se dit, ça c'est forcé. C'est quelque chose de charismatique, c'est quelque chose qui se manifeste. Mais au fond, c'est toujours la même chose. Le passage de du non-croyant au croyant, c'est Dieu qui me donne un lumen de foi, et ce lumen de foi me permet d'adhérer à Dieu qui se révèle. Chose, hein. Substantiellement, la foi de Claudel et la vôtre est la même. Hein. Peut-être que la vôtre est plus intense que celle de Claudel, ce que j'espère, n'est-ce pas ? Mais elle est plus intense. La foi de Paul Claudel, la foi de Saul de Tarse et de Paul Claudel, substantiellement, c'est la même. Nous avons tous la même foi substantielle. Parce que pour tous, ratio formalis, objecti, fidei, deus revelans, c'est la même. Vous voyez ? C'est la même foi substantiellement. Elle prend des modalités différentes. Il y a des modalités charismatiques, il y a des modalités non charismatiques. La modalité non charismatique, c'est quand progressivement quelqu'un est conduit à la foi par la prédication, par un cours de théologie. Alors vous êtes conduit progressivement à la foi, et alors tout d'un coup vous dites oui, je crois. Il n'y a rien de charismatique, ça se fait lentement. Tandis que quand c'est charismatique, ça se fait brusquement. Le tonnerre est tombé sur votre tête. Et à ce moment-là, vous vous dites, j'ai perdu la tête et je crois. Alors, vous voyez, ça c'est le tonnerre qui est tombé dessus. Bon, là, je n'ajoute pas plus. Hein. Y a-t-il une révélation de Dieu aux prophètes, aux philosophes, qui découvrent que les réalités qu'il expérimente dépendent de lui? Non, ce n'est pas une révélation. Parce que pour saint Thomas, les créatures ne sont pas une parole de Dieu. Ce qu'on dit aujourd'hui constamment, c'est pas vrai. Les créatures ne sont pas une parole de Dieu. Tandis que pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait une parole divine. C'est à travers la parole de Dieu que se fait la révélation. Tandis que à travers la créature ne se fait pas la révélation, se fait le dévoilement de l'existence de Dieu. Ce n'est pas une révélation. Parce que la créature n'avait pas le droit de dire « je suis une parole de Dieu ». Vous n'êtes pas une parole de Dieu, vous êtes une créature. Vous êtes à la fois plus et moins. Alors, je prends ici tout de suite. Une parenthèse au sujet de la création. Pourriez-vous, donc je suis dans les parenthèses, je continue. Pourriez-vous commenter brièvement article 2 de la Somme, si vous le jugez opportun en ce cours? Prima pars. Question 61, article 3, où saint Thomas dit que les anges ne sont pas créés avant l'univers. Ils en font partie. Et s'opposent à la tradition orientale, saint Grégoire de Nice, saint Grégoire de Damas, et à saint Jérôme. Ça, c'est grave. Alors, il faut faire grande attention à cette question-là. Les anges ne sont pas créés avant l'univers. C'est parce que l'univers, c'est justement à partir de ce moment-là que le temps existe. Avant la création de l'univers, il n'y a pas de temps. Donc, c'est facile. Le temps implique l'univers physique. Quand Dieu crée les anges, il ne crée pas le temps. Donc, je dois dire avant. Vous voyez, c'est très simple. Donc, ce n'est pas contraire à eux autres, c'est simplement un langage différent. Il faut comprendre le langage différent. Quand saint Jérôme dit, alors saint Thomas purifie en disant, quand vous dites avant, mais c'est métaphorique. Et donc, au point de vue de la théologie scientifique, c'est rien. Mais des quantités de pères de l'Église, saint Grégoire de Nazianze parle tout le temps des métaphores. Saint Jean de Massène aussi, saint Jérôme un peu moins, mais au fond, parce qu'il est latin, alors un peu moins. Mais autrement, saint Grégoire de Nazianze et saint Jean de Massène emploient constamment des métaphores. Ils ne font pas la distinction entre analogie métaphorique et analogie propre. C'est saint Thomas qui va faire cette distinction. Et c'est là la distinction de la théologie scientifique. Oui. De sorte que ce n'est pas contre, c'est tout simplement une précision dans le langage. Mais ce n'est pas contre. Alors, prima pars, question 64, article 7, où saint Thomas dit que Lucifer était le premier des anges, non toutefois un séraphin brûlant de charité, mais bien un kéroubim d'une intelligence lumineuse, et se range ainsi de la vie de saint Grégoire contre saint Jean d'Amasène. Oui, j'aime beaucoup ça. Saint Thomas dit que Lucifer était le premier des anges, non toutefois un séraphin, donc il n'était pas le premier. Les séraphins sont avant les chérubins, n'est-ce pas? Les séraphins, c'est l'amour. Alors c'est très difficile, vous comprenez, il n'y a pas de révélation. On est dans un ordre de tradition. C'est ce qui est sûr, alors, c'est que c'est une faute d'intelligence. Et donc, il devait être un ange très supérieur, qui a fait passer l'intelligence avant l'amour. Bon. Il n'y a pas de révélation au sens absolu de dire lequel. Puisque les ordres des anges, c'est quand même Denis, c'est une tradition orientale, les hiérarchies dans les anges, hein. Vous ne trouvez pas, il y a bien quelques passages dans saint Paul sur la hiérarchie dans les anges, mais c'est au fond pas hiérarchisé. Alors la hiérarchie dans les anges, ça fait partie de la tradition. les neuf cœurs des anges. Hein. Ça fait partie de la tradition. Alors pour Lucifer, c'est très 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 délicat. Mais je crois qu'on peut s'en tenir à ce que dit saint Thomas, c'est très bien. Contre saint Jean de la Salle. Alors continuons à essayer de comprendre le point de vue de Dieu comme cause. Ah oui, c'est pour ça que c'est mis sur la table. Je vais pas entrer, je ne crois pas que je vais entrer dedans. Hein. Les anges ont été créés avant le monde corporel. Je veux bien, mais j'aime mieux continuer la création. Hein. Et puis, simplement ce que je vous ai dit là. Alors, voyons tout de suite la question, toujours, préciser comment l'être premier est cause. Vous voyez, c'est ça que saint Thomas veut montrer. Hein. L'être premier est cause. Ce que les modernes ont une peine énorme d'accepter. Parce que le mot « cause » pour eux n'est pas lié à « principe ». Le mot « cause » pour eux est lié à ce que Kant nous dit de la cause. Et alors, si évidemment je prends ce que Kant dit de la cause, je ne peux pas dire que Dieu est cause. Un kantien ne peut pas dire que Dieu est cause. Mais si je prends une philosophie plus profonde que celle que Kant, et si j'essaie de comprendre que cause implique principe et que être cause n'implique aucune imperfection, je peux dire que l'être premier est cause. À cause de la création. Alors, la création étant une réalité que je constate, puisque je suis une créature, dans la foi, je dis tout de suite que je suis une créature. Donc je peux préciser à partir du fait même que je suis une créature, je peux préciser tout de suite que Dieu est cause. Et j'essaie de préciser dans un langage théologique qui se sert des divers premiers, des diverses causalités. Quand je dis que Dieu est cause, quelle est la nature de cette causalité? Le comment cette causalité? Je dis donc d'abord cause efficiente. La cause efficiente comme telle, quand elle est prise au niveau théologique, pas au niveau philosophique. La cause efficiente, quand elle est prise au niveau théologique, elle n'implique aucune imperfection. Et je peux dire que toutes les réalités autres que Dieu participent de Dieu. Participent leur essai. Participent de Dieu, enfin, participent de l'être, disons pas de Dieu. On ne participe pas de Dieu, sauf au niveau de l'ordre surnaturel. Vous ne pouvez pas dire qu'au niveau naturel, vous participez de Dieu. Tandis que vous pouvez dire, au point de vue surnaturel, que votre grâce participe à la nature de Dieu. Et vous ne dites pas que la grâce participe de l'être. Vous voyez, ça c'est très important, hein, pour bien préciser ça. Quand je parle de l'être participé, l'être participé, je ne dis pas égal participer Dieu. Mais je ne dis pas ça. Je dis l'être participé égale la participation de ce qui est, de l'être, de l'essai. Pouvez-vous dire que l'être participé, c'est une participation de l'ipsum esse subsistens? Oui, de l'ipsum esse subsistens. L'ipsum esse subsistens est unique. Il est premier, absolument simple. Donc, il est, d'une certaine manière, imparticipable. Et cependant, il peut être source de participation. Il faut maintenir les deux. Tandis que quand j'ai dit la grâce, j'ai dit tout de suite que la grâce, participation formelle, est la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que l'essai de la créature est une participation formelle de l'ipsum esse subsistens. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez dire que l'essai de la créature est participé par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est source de son essai. Dieu est source de son essai, mais il ne participe pas à l'être de Dieu. Il participe à l'être. C'est pas la même chose. C'est ça qui est très important à saisir le point de vue. Donc, premier article, nous l'avons vu, par le point de vue de la participation, par le point de vue de la participation, on peut dire que Dieu est cause efficiente de toutes les réalités autres que lui. Parce que toutes les réalités autres que lui participent l'essai. Du fait même qu'elles participent l'essai, leur essai est causé. Puisque avoir un essai participé, c'est avoir un essai qui provient d'un autre. Donc c'est le métaxu, retenez toujours les métaxus, hein. Le métaxu de l'article premier, c'est l'essai participé. Ensuite, saint Thomas va nous montrer comment la matière est créée par Dieu. Autrement dit, la matière n'est jamais quelque chose de premier. Elle est toujours quelque chose de second. Je ne peux pas attribuer à Dieu la causalité matérielle. Et ceci, ça a été montré à propos de la simplicité de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de matière. Pourquoi ? Parce qu'il est acte pur. Donc il n'y a pas de matière en Dieu. Mais la matière provient de Dieu. Alors ça, c'est au fond très important, puisqu'il y a toute une théorie, on sait bien, qui prétend que la matière ne peut pas provenir de Dieu. C'est très important, ça, parce que vous savez bien, dans le procès de quand on a condamné saint Thomas. Et une des condamnations de saint Thomas, c'est justement que saint Thomas prétendait que la matière était pure puissance. On a dit ça, c'est de l'Aristote. Si saint Thomas dit que la matière est pure puissance, la matière n'est donc pas créée. Parce que la pure puissance ne peut pas être créée. Donc saint Thomas dit que la matière est éternelle. Donc là, l'influence d'Aristote, du païen. Saint Thomas n'a jamais dit que la matière n'était pas créée. Au contraire, il montre que la matière est créée. Oui. Article 3. Y a-t-il une cause exemplaire en dehors de Dieu ? Alors, ce qu'on appelle exemplaire est identique à ce qu'on appelle idée. Et la métaphysique de l'idée en Dieu, la sagesse des idées, la sagesse des idées. Dans la sagesse de Dieu, il y a des idées. Or, d'après saint Augustin, les idées sont des formes principes contenues dans l'intelligence divine. Les exemplaires des choses ne sont donc pas hors de Dieu. Ça, c'est la conclusion que saint Thomas nous donne, qu'il ne peut pas y avoir de cause exemplaire en dehors de Dieu. Il faut bien comprendre cette question-là. C'est très important, ça. C'est toute la question du timé. Hein. C'est Dieu qui est la première cause exemplaire de toute chose. Prima causa exemplaris omnium rerum. Pour s'en rendre compte, il faut observer que si un exemplaire est requis pour la production d'une chose, l'exemplaire, sans compte, il faut observer que si un exemplaire est requis pour la production d'une chose, c'est afin que cette chose ait fait de l'action ou effet de la fabrication, de la création, revêt une forme déterminée. C'est en raison de la détermination d'une chose faite qu'on dit qu'il y a une cause exemplaire. Ça que saint Thomas souligne. Hein. Votre détermination, votre nature implique une détermination. Comme vous êtes un être créé, Il faut donc qu'il y ait une cause exemplaire de cette détermination. L'homme de l'art, en effet, donne à la matière une certaine forme à cause de l'exemplaire qu'il contemple. Que cet exemplaire soit vu par lui au dehors, ou qu'il soit une conception de son esprit. Ça revient au même. Le modèle peut être intérieur ou extérieur. Quand on est le premier à penser quelque chose, on a un projet. Et ça, on l'a au-dedans de nous-mêmes. Mais celui qui vient après, il reçoit le projet de l'autre. Donc il vient extérieur. L'exemplaire peut être intérieur, l'exemplaire peut être extérieur. Tout dépend où vous vous situez par rapport à l'œuvre d'art. Si c'est vous qui êtes l'artiste premier, l'exemplaire, c'est vous qui l'avez inventé. C'est vous qui l'avez créé. Si vous venez ensuite, l'école, c'est ce qui vient après, alors l'exemplaire, il est en dehors. Or, il est manifeste que les choses produites naturellement revêtent des formes déterminées. Et cette détermination des formes doit être attribuée comme à son premier principe à la sagesse divine, qui a conçu l'ordre de l'univers, en effet, et qui a conçu l'ordre de l'univers et fait la distinction des êtres. Il faut donc dire que dans la sagesse divine sont contenues ces notions de toutes choses que plus haut nous avons appelées idées. Vous voyez, c'est la définition que donne saint Thomas des idées, c'est très important ça. Entendant par là des formes types existant dans l'intelligence divine. Du reste, ces idées, bien qu'elles soient multiples, en tant qu'elles se réfèrent aux choses, ne sont réellement rien d'autre que l'essence divine, selon que sa ressemblance peut être participé diversement par les divers êtres. C'est donc Dieu même qui est le premier exemplaire de tout. Rien n'empêche qu'après cela, dans la création, certaines choses soient dites des exemplaires par rapport à d'autres, pour cette raison que telle chose soit à la ressemblance de tel autre, soit qu'elle appartienne à la même espèce, soit en raison d'une même analogie d'imitation. Ça, c'est un article difficile à propos de l'exemplaire. Hein. C'est pas si commode que ça, bien comprendre du point de vue de l'exemplarité. C'est la question des idées de Dieu. Alors, comprenons, toute cette théologie des idées, hein, que saint Thomas va ramener ici, toute cette théologie des idées vient de Denis. Donc, c'est très important de se rappeler la source. Hein. Ça vient de Denis, donc ça vient d'un courant néo-platonicien. C'est Denis qui parle des idées de Dieu. Et toute la tradition a parlé des idées de Dieu. Saint Augustin parle des idées de Dieu. Oui, c'est un courant néoplatonicien. Et saint Thomas va l'assumer parce que ça fait partie de la tradition. Il va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les idées de Dieu. Quand vous parlez que Dieu a des idées. Le livre de Miguel Garrigue en disant il n'y a pas d'idée de mal en Dieu. Dieu ne pense jamais le mal. Dieu n'a jamais le mauvais œil. Il ne pense jamais le mal. C'est nous qui pensons le mal. La créature pense le mal. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas d'idée de mal en Dieu. Toutes les idées de Dieu sont des idées de bonté. Participation à la bonté de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'idée de mal. Alors qu'est-ce que c'est que l'idée en Dieu? Quand on parle de l'idée en Dieu. Alors vous voyez là, c'est très très beau parce que c'est l'aristotélicien, le théologien aristotélicien qui intègre le néoplatonisme. C'est pour ça que cette théologie des idées est toujours une chose très très curieuse. Parce que c'est la rencontre très nette de deux fleuves, le Rhin et le Rhône. Eh bien, c'est la rencontre des deux prises dans un sommet qui est le sommet du théologien. Le théologien peut se servir du néoplatonisme alors que le philosophe ne peut pas. Alors c'est intéressant de voir pourquoi. Parce que le théologien se situe au niveau du Dieu, alors il peut se servir du néoplatonisme. Parce que le néoplatonisme est toujours une vision en Dieu. Toujours une vision de sagesse. Alors comme le théologien est toujours dans une vision de sagesse, il peut très bien assumer le néoplatonisme. Et ça, c'est un des cas les plus extraordinaires de voir comment saint Thomas assume le néoplatonisme. Alors, il y a tout un petit travail à faire là-dessus, vous voyez, c'est de voir chaque fois que saint Thomas parlait des idées. Un des lieux très caractéristiques de saint Thomas pour les idées, c'est quand saint Thomas parle des idées dans les questions disputées. Je ne sais pas si on en donne la référence ici. Oui. Vous voyez, regardez si vous avez la somme théologique, vous voyez que saint Thomas ici nous donne, du moins, on donne toute une série de lieux parallèles. Le Contra Gentiles, chapitre 54, le De Veritate, question 3, article 1, question disputée, le De sur les noms divins, chapitre 5, leçon 3, et puis Métaphysique, leçon 15. Alors ça, c'est très curieux, Métaphysique, leçon 15. Alors, les idées. Qu'est-ce que ce sera que les idées pour saint Thomas? Les idées, c'est l'archétype. C'est le modèle, l'exemplaire, donc le modèle. Le modèle, à partir de quoi on réalise quelque chose. Alors, vous avez l'artiste, c'est pour ça que j'ai dit le timé, vous voyez, l'artiste qui regarde. Alors, c'est Dieu dans sa sagesse, qui regarde ses modèles et ses idées qu'il a en lui, qui proviennent de lui. Tous les possibles qui sont en Dieu, tout ce que Dieu peut réaliser. Dieu aurait pu réaliser un monde meilleur que celui qu'il a réalisé. Donc il a en lui une possibilité qui nous dépasse complètement. On ne parle d'idées que par rapport aux réalités qui existent. Autrement, on parle des possibles. Alors, il y a, dans la sagesse de Dieu, les possibles, et puis il y a les idées. Les possibles, c'est tout ce que l'intelligence possible de Dieu peut penser. L'intelligence de Dieu, en se contemplant, voit toutes les possibilités qu'il a de pouvoir se réaliser en dehors de lui. Et puis, il y a des idées. Les idées impliquent donc non seulement le point de vue du possible, mais que Dieu a déterminé que ce serait un projet, une idée, un exemplaire, le modèle, sur lequel il va réaliser les créatures. Donc, les idées sont le modèle des créatures. Ce modèle qui est tout simplement la manière dont Dieu est parti, la manière dont Dieu veut communiquer l'essai aux créatures. C'est le point de vue de l'essai participer. Et comment rejoindre le modèle? C'est que dans cet essai participer, il y a une détermination, il y a une forme. C'est de comprendre que cette détermination qui est dans la créature, elle est premièrement en Dieu. Et elle est en Dieu selon un mode très éminent qu'on appelle l'exemplaire, qu'on appelle l'idée. Toutes les déterminations que vous voyez dans les réalités ont été pensées par Dieu. Et ont été pensées par Dieu comme des modèles. À partir de quoi Dieu a réalisé les choses-là. Autrement dit, c'est d'essayer de comprendre comment la création est une œuvre de sagesse. Dieu a pensé à tous les détails de la création. Et parce que Dieu a pensé à tous les détails de la création, tout ce que je vois de déterminé dans la création, tout l'ordre qui existe dans la créature, toutes les déterminations qui existent dans la créature, ont été pensées par Dieu. Elles ont été pensées par Dieu selon ce mode particulier, que Dieu les a portées avant qu'elles réalisent, avant qu'elles se réalisent. Et c'est sur le modèle même de sa pensée qu'il a réalisé la création. Mais donc les idées, c'est pour essayer de comprendre le mystère de la sagesse de Dieu pensant l'univers. Et Dieu pensant l'univers, ces idées sont donc mesures de la création. Donc, les idées représentent tout simplement la sagesse de Dieu mesurant l'univers. Et la sagesse de Dieu mesurant l'univers, non pas d'une manière globale, mais d'une manière précise. Dieu a l'idée, alors ça c'est la question de savoir si Dieu a l'idée de toutes les réalités particulières. Est-ce que Dieu a l'idée de tous nos cheveux? Pas un cheveu de notre tête, mais tout ce que le Père Céleste se permet. Alors est-ce que vous avez l'idée des cheveux, de vos cheveux en Dieu? Vous pouvez poser ça, c'est tout à fait des questions de la scolastique décadente, c'est ça? Est-ce qu'il y a l'idée de Dieu de toutes les réalités possibles, puisque Dieu a pensé toutes les réalités? Ou bien est-ce que Dieu a l'idée simplement de la nature? L'idée de la nature, puis l'individu, voir comme je te pousse, hein, parce que ça c'est l'individu, c'est la matière errante. Hein. Alors est-ce que Dieu a l'idée précise de toute chose? Est-ce que l'idée de Dieu sur toute chose est une idée précise ou est-ce que c'est une idée abstraite? Rien d'abstrait en Dieu. Dieu est plus concret, singulier que toutes les réalités existantes. Or, l'idée en Dieu n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute. C'est donc l'essence même de Dieu. Mais c'est quelque chose de distinct dans la mesure où je vois cette relation de modèle à la réalité mesurée, de l'exemplar par rapport à l'idée. Mais c'est ça la difficulté que j'ai par rapport aux idées, c'est de bien comprendre que l'idée ne fait qu'un avec l'essence de Dieu, au point de vue de la réalité. Mais la raison formelle de l'idée, je la précise en voyant le lien qui existe entre Dieu exemplar et la réalité en tant qu'elle est réalisée. Et en tant qu'il y a entre les deux une similitude formelle. Puisque toute détermination est pensée par Dieu. Vous voyez ce que c'est que la cause exemplaire? Comment je peux dire qu'en Dieu, il y a une cause exemplaire? Il y a une cause exemplaire de toutes les réalités en tant que ces réalités ont été pensées par Dieu. Et saint Thomas conclut, vous voyez bien, cette conclusion est intéressante. Rien n'empêche, d'après cela, dans la création, certaines choses soient dites des exemplaires par rapport à d'autres, pour cette raison que telles choses sont à la ressemblance de telles autres, soit qu'elles appartiennent à la même espèce, soit en raison d'une certaine analogie d'imitation. Alors vous voyez, c'est là la très grosse différence entre la cause exemplaire et la cause efficiente. Quand il s'agit de la cause efficiente, je ne peux pas dire qu'il y a des intermédiaires au niveau de la cause efficiente. Il n'y a qu'une seule cause efficiente des créatures. Il peut y avoir diverses causes exemplaires des créatures. Tandis qu'il n'y a qu'une cause efficiente. Il ne peut pas y avoir plusieurs causes efficientes. Alors ça, c'est très intéressant à réfléchir. Hein. Parce que ça fait comprendre tout de suite la différence entre la cause exemplaire, la causalité exemplaire et la causalité efficiente. L'article 1er nous montre que Dieu seul est cause efficiente de toutes les réalités. La cause efficiente qui est source de l'essai, de l'essai participer. Il n'y a qu'une seule cause efficiente. Il peut y avoir diverses causes exemplaires. Et vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi? La cause efficiente est fixée dans l'être. Donc, elle implique une primauté dans l'être, elle implique l'ipsomessé subsistance. Pour être cause efficiente des réalités, il faut être un être absolument saint, il faut être l'ipsomessé subsistance. Donc il ne peut y avoir qu'une seule cause efficiente. Tandis que quand il s'agit des causalités exemplaires, la causalité exemplaire est dans l'ordre de l'intentionnalité. Parce que dans l'ordre de l'intentionnalité, il peut y en avoir plusieurs. Ça ne répugne pas. Il peut donc y avoir des intermédiaires. Il peut y avoir des intermédiaires. Tandis que dans l'ordre de la causalité efficiente, impossible. Puisque la causalité efficiente n'est pas au niveau de l'intentionnalité, mais au niveau de la réalité. Alors, on verra la fois prochaine très rapidement les objections, mais ce qui est important ici, je crois, c'est de comprendre justement ce fait que la cause exemplaire, c'est cette relation entre ce qui est mesuré et la mesure.